VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 août 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la Lucha appelle à des manifestations et présente cette exigence pour le processus électoral.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé au moins 46 candidatures pour la présidentielle prévue à la fin de l'année.
Human Rights Watch dénonce un climat de peur pour les journalistes au Nigeria.
Un tank ayant à son bord 17 marins géorgiens a disparu depuis une semaine dans le golfe de Guinée.
Ici aux États-Unis, double coup dur judiciaire pour le président Donald Trump concernant son ancien avocat et son ex-chef de campagne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, où la présidentielle est prévue le 23 décembre prochain, le mouvement citoyen Lucha a annoncé hier des manifestations pacifiques pour, je cite, « sauver le processus électoral ». Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Non satisfaite des avancées que connaît le processus électoral et du faible taux d'application des mesures de décrispation politique que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, la Lucha, lutte pour les changements, annonce une série de manifestations à partir du lundi 3 septembre courant. L'objectif, selon ces jeunes, est d'obtenir des autorités du pays la prise en compte et l'application de leurs revendications qu'ils résument en cette exigence pour sauver le processus électoral. Il s'agit notamment de l'abandon de la machine à voter, de la libération des prisonniers politiques et d'opinion et de l'espace politique congolais, de la cessation de ce qu'ils qualifient des poursuites judiciaires motivées contre certains opposants pour un processus électoral plus inclusif, de la fiabilisation du fichier électoral, de la levée de l'interdiction des manifester et de la réouverture de certains médias privés fermés depuis plus de 2 ans maintenant. Au cours de ce point de presse organisé mardi simultanément dans 14 villes de la RDC, la Lucha appelle à des manifestations pacifiques pour faire entendre sa voix. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, une délégation du Conseil œcuménique des Églises en visite dans le pays a exprimé son inquiétude hier sur le processus électoral censé conduire à l'organisation de la présidentielle. Elle a exprimé ses inquiétudes sur la question des électeurs inscrits sans empreinte digitale, le besoin de consensus et de confiance sur l'utilisation de la machine à voter, ainsi que sur le cas des prisonniers et des exilés politiques en RDC. La délégation a aussi demandé à la commission électorale et au gouvernement congolais de répondre à ces enjeux.
La Russie va former dans ses écoles militaires des soldats centrafricains en vertu d'un accord signé mardi entre les deux pays dont les liens ont été mis en lumière récemment par l'assassinat de 3 journalistes russes. Cet accord vise à contribuer à renforcer nos liens dans le domaine de la défense, a souligné le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Selon son homologue centrafricaine, Marie-Noëlle Koyara, le document porte notamment sur la formation des forces armées centrafricaines.
Human Rights Watch a dénoncé hier le climat de peur instauré par les agences de sécurité au Nigeria. 2 journalistes sont jugés actuellement pour l'exercice de leurs fonctions. Raissa Gironda.
Plusieurs arrestations et détentions récentes de journalistes au Nigeria suggèrent une tendance inquiétante à la répression de la liberté d'expression, affirme Human Rights Watch. John Sabiri, du Weekly Source Newspaper, a été arrêté par l'Agence nationale de renseignement et gardé au secret pendant 2 ans sans procès pour ses liens présumés avec des rebelles du delta du Niger. Il a été libéré sous caution le 16 août. Son procès commencera le 5 septembre à Abuja. Samuel Ogundimpe du site en ligne Premium Times a été arrêté à la mi-août, puis libéré sous caution après avoir dévoilé un rapport confidentiel sur la prise de contrôle du Parlement par des agences de sécurité. Il doit comparaître demain devant la justice. Human Rights Watch appelle les autorités nigérianes à mettre fin à tout harcèlement de journalistes et veiller à ce que les membres de la presse puissent opérer sans peur.
Un tanker de 121 mètres de long ayant à son bord 17 marins géorgiens a disparu depuis une semaine au large du Gabon, dans le golfe de Guinée. Le point avec Morgane Guiriec.
Le Pantelena, battant pavillon panaméen, a disparu des écrans depuis le 14 août et se situait entre les eaux du Gabon et de Sao Tomé et Principe. Le ministère géorgien des Affaires étrangères précise qu'il y avait 17 marins géorgiens et deux Russes à bord. Les recherches pour les retrouver se poursuivent. Le golfe de Guinée allant du Sénégal à l'Angola, sur plus de 5700 km de côte, est devenu l'épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Selon le Bureau maritime international, 107 incidents ont été signalés au cours des 6 premiers mois de 2018. Le nombre de membres d'équipage pris en otage est donc passé de 63 à 102 par rapport à la même période en 2017. Face à toutes ces menaces et la pêche illicite, les marines d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont renforcé leur coopération avec la signature du processus de Yaoundé en 2013 qui harmonise les pratiques dans le golfe de Guinée.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé hier au moins 46 candidatures pour la présidentielle qui se tiendra à la fin de l'année, dont celle des 3 derniers présidents du pays. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. Parmi les nombreux postulants, il y a l'actuel président R. Rajomanapiam, élu il y a 5 ans, et ses 2 prédécesseurs, Ange Razoel et Mac Ravalomanan. Ces 2 frères ennemis passés à l'opposition avaient été interdits de participer au dernier scrutin suite à un accord pour mettre fin aux crises à répétition dans ce pays pauvre de l'océan Indien. M. Ravalomanan avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir après un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Rajoel à la tête du pays. Il y a aussi d'anciens premiers ministres et même l'ex-président Didier Ratsirak à 81 ans qui avait dirigé le pays d'une main de fer de 1975 à 1993.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a essuyé mardi un double coup dur judiciaire avec son ancien avocat qui l'a personnellement impliqué devant un juge et simultanément son ex-chef de campagne qui a été reconnu coupable à son procès. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Deux juridictions différentes pour 2 affaires distinctes, mais qui menacent d'atteindre directement le locataire de la Maison-Blanche. À New York, Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable de 8 chefs d'accusation pour fraude fiscale et bancaire et pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Il a reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 dollars à 2 femmes affirmant avoir eu une liaison avec le milliardaire républicain en échange de leur silence, et ce à la demande du candidat. Objectif, éviter l'ébruitement d'informations qui auraient porté préjudice au candidat. Cet aveu est une réelle bombe pour celui qui a finalement remporté la présidentielle de 2016, car il sous-entend qu'il pourrait avoir lui-même commis un délit. Quasiment au même moment, dans un parallélisme judiciaire saisissant, le tribunal d'Alexandria près de Washington a reconnu Paul Manafort, un ancien directeur de campagne de Donald Trump, coupable de fraude bancaire et fiscale. Le jury n'a prononcé qu'un verdict partiel, ne parvenant pas à s'accorder sur 10 des 18 chefs d'accusation pesant contre l'ancien sulfureux lobbyiste. Donald Trump a tenu hier à rappeler que cette décision judiciaire n'avait en soi rien à voir avec une éventuelle collusion qu'il nie farouchement depuis des mois, dénonçant une chasse aux sorcières. Où est la collusion, a-t-il demandé à ses supporters lors d'un meeting de campagne pendant la soirée. L'issue de ces 2 audiences représente néanmoins une victoire bien qu'incomplète pour le procureur spécial Robert Mueller et affaiblit la position du président américain dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. D'autant que l'information judiciaire se poursuit malgré les appels incessants de la Maison-Blanche qui souhaite y voir mettre un terme.
Le réseau social Facebook a annoncé hier qu'il avait mis fin à des opérations de manipulation de grande envergure initiées en Iran et en Russie et ayant pour cible l'Amérique latine, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient. Il s'agissait de campagnes distinctes et nous n'avons identifié aucun lien ou coordination entre elles, souligne Facebook. On lui avait vivement reproché, notamment après la campagne électorale de 2016 aux États-Unis, de ne pas faire assez pour lutter contre ce genre d'abus.
Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont averti mardi le président syrien Bachar al-Assad qu'il ne laisserait pas impuni toute utilisation d'armes chimiques par le régime de Damas dans son offensive pour reprendre la province d'Idleb où l'on craint pour la situation humanitaire. Cette déclaration intervient 5 ans, jour pour jour, après l'attaque au gaz sarin dans la région de la Ghouta près de Damas, attaque qui avait fait, selon Washington, au moins 1429 morts. L'attaque a été attribuée au régime de Bachar al-Assad.
Le gouvernement Trump a annoncé mardi un nouveau projet de réglementation destiné à maintenir en vie des centaines de centrales au charbon dont le président Barack Obama voulait précipiter la fermeture afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Immédiatement dénoncée par les écologistes et l'opposition démocrate, la décision vise à concrétiser l'engagement de campagne de Donald Trump d'annuler des normes environnementales de l'ère Obama, jugées illégales et destructrices d'emplois, notamment dans des régions qui lui sont fidèles, comme la Virginie occidentale et le Kentucky. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le taux d'inflation en baisse à 9,6% au Ghana à fin juillet 2018. Le résultat est lié à une baisse générale des prix des articles de la composante non alimentaire du panier d'inflation. Par contre, les produits alimentaires ont connu une légère inflation, principalement par le café, le thé, le cacao, les fruits, la viande, le minéral, boissons gazeuses, les légumes. L'Éthiopie a créé 1,6 million d'emplois au cours de l'exercice 2017-2018, selon l'Agence fédérale pour la création d'emplois urbains et la sécurité alimentaire d'Éthiopie. Cette performance représente environ 88% de l'objectif de création d'emplois qui se chiffrait à 1 836 443 emplois pour la même période. C'est notamment dans les petites unités industrielles, la construction, l'agriculture urbaine, les prestations de services et le commerce à petite échelle. Environ 67,8% des bénéficiaires sont des jeunes. Quelques 350 industriels américains s'opposent aux taxes de l'administration Trump contre la Chine. Ces industriels, qui pour beaucoup fabriquent en Chine, n'ont pas mâché leurs mots face à la perspective d'une nouvelle tranche massive de taxes douanières dès septembre. Cela porterait à 250 milliards de dollars le total des marchandises chinoises taxées par Washington, sans compter les droits sur l'aluminium et l'acier.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Première liste dévoilée par le nouveau sélectionneur du Cameroun.
Oui, le Néerlandais Clarence Seedorf a annoncé sa première liste de joueurs, écartant notamment l'ancien capitaine Benjamin Mukanjo. Le groupe participera au match comptant pour les éliminatoires de la CAN le 8 septembre face aux Comores. Clarence Seedorf a fait appel à Paul George Ntebe, 26 ans, qui joue à Wolfsburg en Allemagne. Le natif de Douala a déjà été sélectionné à 2 reprises en équipe de France lors de matchs amicaux, mais peut encore être appelé en sélection camerounaise. À l'inverse, Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017, et l'ancien capitaine, je le disais, Benjamin Mukanjo, n'ont pas été retenus. Tous deux évoluent en Chine.
Rubrique transfert.
Abdoulaye Diaby, qui évoluait depuis 3 ans au FC Bruges, a signé pour 5 ans avec le Sporting du Portugal. Le transfert a été conclu pour 4 millions d'euros. L'attaquant international malien de 27 ans avait été recruté par Lille en 2013, mais le LOSC l'avait successivement prêté aux Belges de Mouscron jusqu'à son transfert au FC Bruges à l'été 2015. La saison dernière, Diaby a marqué 16 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues. Et puis on parle de Clinton Gie qui est à Lisbonne pour s'engager avec le Sporting Portugal. Il s'agit d'un prêt sec et payant sans option d'achat. L'OM touchera entre 800 000 et 1 million d'euros dans l'opération.
Le président de l'UEFA en piste pour sa réélection.
Alexander Seferin a été officiellement désigné par sa fédération nationale pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'organisme dirigeant du football européen. Le Slovène est favori pour être réélu. Cette élection aura lieu le 7 février prochain à Rome.
Usain Bolt, footballeur, c'est un peu plus une réalité.
Et oui, la légende jamaïcaine du sprint a participé hier, le jour de ses 32 ans, à ses premières séances d'entraînement avec le club australien des Central Coast Mariners, avec comme objectif de devenir footballeur professionnel. Ce club basé dans le nord de Sydney espère que son nouveau joueur pourra être prêt pour la reprise fin octobre de la A-League, le championnat qui réunit les meilleures formations australiennes et néo-zélandaises. On rappelle qu'Usain Bolt a pris sa retraite en 2017. Il a fait des essais non concluants avec Dortmund en Norvège et aussi en Afrique du Sud. Le plus grand rêve de Bolt, c'est de jouer un jour pour son club de rêve, Manchester United.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Drissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le pasteur Ntumi, vu pour la première fois en public, c'était au village de Mihete, dans le Poul, où il a rencontré une délégation gouvernementale. Il a invité les membres de la commission de paix à s'occuper prioritairement de lui avant de procéder au ramassage des arbres dans le Poul. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
C'est un pasteur Ntumi serein et rassuré, habillé en jean bleu, que les membres de la commission de paix ont rencontré à Mihete dans le district de Kindamba. Dans un échange réservé, les deux parties ont évoqué leurs difficultés dans la mise en œuvre de l'accord de paix conclu en décembre 2017. Pour Séraphin Ondélé, le président de cette commission, Ntumi doit mettre la main dans la pâte pour permettre le ramassage des armes encore entre les mains de ces miliciens.
Nous croyons que vous êtes devenu un homme de paix. Nous venons vous dire, ma commission et moi, nous venons vous dire que nous sommes limités. Nous avons travaillé, oui. Nous sommes fiers d'avoir travaillé. Et maintenant, nous sollicitons que vous preniez le relais parce que c'est vous qui avez signé les accords de paix. Nous sommes que des ouvriers. Maintenant, nous sommes bloqués.
Le chef rebelle du Poul a indiqué que le ramassage des arbres n'était pas une priorité. Il fallait s'attaquer au mal à la racine. Ntumi s'est lui-même présenté comme le premier ex-combattant à réinsérer.
Et ce n'est pas le ramassage des armes qui va assurer les gens, mais ce sont les cœurs des gens. J'ai des enfants comme vous aussi, vous avez des enfants. À bientôt, il va pleuvoir. Comment je vais faire? Je vais repartir dans la forêt, trouver encore les feuilles pour faire encore des huttes. Et quand je vous rappelle ça, vous allez transformer pour dire que non, voilà, il pose des conditions, voilà ce qu'il dit, voilà, c'est peut-être qu'il ne veut pas, voilà, voilà. Alors que nous avons signé, c'est la partie gouvernementale qui a bloqué. Si nous sommes détenteurs d'une arme et que nous avons fait la paix, cette arme ne sert à rien. Nous devons la déposer, nous devons la remettre. Ce n'est pas ce qui est plus important. On peut remettre une arme, mais la situation qui a provoqué qu'un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglée, finalement c'est comme si ce qu'on a fait, on était comme des animaux seulement qui se sont battus.
C'est pour la première fois depuis le déclenchement du conflit dans le Poul en avril 2016 que le pasteur Ntumi s'est montré en public. Par ailleurs, aucun agenda précis de l'opération du ramassage des armes n'a été arrêté. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, dissension au sein de l'opposition sur le choix d'un candidat unique pour la présidentielle du 7 octobre. Les tractations entre les 8 candidats de l'opposition achoppent surtout sur les critères de désignation de l'un d'entre eux. D'ores et déjà, 2 candidats ont exclu toute idée de participer à une coalition de l'opposition. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap fait le point.
L'âge du candidat unique de l'opposition est l'un des points de dissension. Professeur Nkumvondo est intransigeant sur ce point. En sa qualité de président du Parti Univers, qui a investi l'un des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle.
Pourquoi voulez-vous que moi, avec le Parti Univers, nous qui voulons l'arrivée aux affaires d'une nouvelle génération, que j'aille me mettre avec Maurice Kamto qui a 105 ans ou 106 ans? Non, je ne suis pas sûr que je partagerai l'idée de cette coalition.
3 des 8 candidats de l'opposition ont moins de 40 ans. Il s'agit de Cabral Libye, du pasteur Ndifo Afangui Franklin et Serge Espoir Matomba. Joshua aussi, le candidat du principal parti de l'opposition, est quant à lui âgé de 49 ans. Et parmi la vieille garde de l'opposition, il y a Garga Haman Hadi, 74 ans. Il est contre une coalition de l'opposition et ironise sur le critère de l'âge.
Si c'est l'âge qui fait fonction de compétence, qu'on aille dans les maternités prendre les bébés, ils seront alors plus compétents. Le président de la République, c'est d'abord le cerveau, la conscience et le sens du bien public et de l'honneur.
Au-delà de l'âge, supporte Fagnon de l'opposition, certains candidats disent être sous pression de leurs sympathisants sur le plan financier. À l'instar de Cabral Libi, qui a pu réunir le montant de sa caution, 30 millions de francs CFA, grâce à une levée de fonds populaires.
Il y a des contributeurs qui me disaient clairement, on te donne notre argent. Si tu coalises avec quelqu'un, on n'est plus là. Mais il y en a aussi qui te disent, je vous donne mon argent pour que vous soyez candidat, mais si vous avez possibilité de renoncer à votre candidature pour un autre candidat dans le cadre d'une coalition, je ne vous en voudrai pas. Et vous devez arbitrer, vous devez gérer tout ça.
Dans un tel contexte, rares sont les habitants de Yaoundé qui croient encore à une candidature unique de l'opposition.
Entre les leaders des partis d'opposition, il y a un problème d'ego.
Avant même que le corps électoral ne soit convoqué, il y avait un qui s'était déjà déclaré tireur de pénalty. Ça veut dire qu'il ne donnait plus la possibilité à qui que ce soit de pouvoir tirer ce pénalty, même s'il était plus adroit que lui.
Toute personne qui aimerait s'allier à ce qui est candidature unique va vouloir que ce soit lui qui soit le candidat de cette union-là. Forcément, il n'y aura pas de candidature unique.
Pour l'essayiste camerounais André-Julien Mbem, l'opposition camerounaise semble faire fausse route sur les critères de choix de son représentant à l'élection présidentielle.
La candidature unique, ce n'est pas un choix physique, ce n'est pas un choix cosmétique, c'est un choix idéologique, conceptuel, c'est même un choix intellectuel par rapport aux grands enjeux de l'avenir du pays. On devrait plutôt parler du programme unique et alternatif d'une opposition qui voudrait challenger le président Biya.
La dernière tentative d'une coalition de l'opposition s'était achevée en queue de poisson en 2004. John Frundi, président du SDF, avait claqué la porte à la grande surprise de tous. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Mali, la communauté musulmane a célébré hier la fête de l'Aïd al-Adha ou Tabaski en Afrique de l'Ouest. Cette année, plusieurs familles ont été confrontées à des difficultés financières pour acheter le bélier qui molle traditionnellement les fidèles musulmans. Compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
C'est dans des conditions difficiles que les Maliens ont préparé la fête de Tabaski. Les tailleurs et autres coiffeurs se plaignent de la situation.
Je veux dire que cette année, c'est un peu différent parce que les années précédentes, on a plus de clients. Les gens viennent un peu plus tôt. On sent qu'il y a un petit ralentissement par rapport aux clients. Les clients viennent un à un. Donc, le mouvement est vraiment très lent. C'est pas trop comme les années précédentes, le moment. Parce que vu les tensions, au moment électoral, là, vraiment, les clients ont commencé bon.
C'est pas comme les années passées. L'année passée, on a plus travailler que cette année. Mais néanmoins, on travaille quand même.
Certains aiment aller fêter aux côtés de leurs parents dans les villages et autres grandes villes du pays. Cette année, cela n'a pas été facile.
Pour aujourd'hui, toutes les véhicules sont remplis.
Moi, je suis venu depuis hier ici. Nous sommes venus prendre le ticket. On nous a dit on doit voyager jusqu'à 17h. Donc, nous avons passé la nuit ici.
Il y a des passagers qui viennent en retard. Quand on te donne rendez-vous pour 15h, départ 16h, si vous vous présentez à 16h10, 15, voire même 20, est-ce que vous pouvez avoir ces mêmes bus ici, regardez? C'est pas possible.
La veille de la fête, vous savez, les clients viennent en masse pour aller à leur destination respective. Mais aujourd'hui, nous avons fait sortir à peu près une quarantaine de bus. Bon, comme c'est toutes destinations confondues.
Dans la capitale, malgré la difficulté, la tradition a été respectée par les familles fondatrices.
La tradition voulait quand même qu'on fasse la prière là où on pouvait contenir beaucoup de gens. On quittait la mosquée de Dabanani, où logeait notre aïeul, pour aller au lieu de la prière. La tombe de Tal Maman est justement à cette mosquée. Et l'imam qui prie dans cette mosquée, donc on le fait suivre comme s'il représente Tal Maman.
C'est que je souhaite la bonne santé et la paix, surtout la paix.
et dans l'ambiance, que tout le monde se serre les mains, se serre les coudes pour que le pays avance au lieu de régresser.
L'imam Dakka Keïta nous donne le sens du sacrifice d'Abraham.
L'historique même de cette fête vient du prophète Abraham qui, à son époque, voulait donner quelque chose en sacrifice au très haut, le tout-puissant Dieu. Ce sacrifice que le prophète Abraham voulait faire à Dieu, donc en lieu et place d'Ismaël, on lui a envoyé un bélier blanc qu'il a immolé pour donner en sacrifice à Dieu. Donc cela a consacré la fête de Tabaski.
Le président Ibeka a prié au niveau de la grande mosquée de Bamako. Il en a profité pour parler de sa victoire, mais aussi des perspectives. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Moi, je pense que vraiment, le Mali est un pays de fraternité. Et je crois que le temps aujourd'hui de l'amertume électorale doit être de courte durée. Le Mali a besoin qu'on aille rapidement à l'essentiel. J'en appelle à chacun. L'élection est démocratique. L'élection est un temps, une parenthèse, mais qui doit être la plus courte possible. Le Mali attend, le pays attend. Les chantiers sont là. Et chacun de ceux-là a compétence à aider, à faire avancer le Mali.
Les difficultés financières dans les foyers ont fait que la fête de Tabaski n'a pas eu beaucoup d'engouement. Mais malgré tout, la fête d'Aïd El Moubarak a été respectée dans certaines familles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Ici aux États-Unis, les élections législatives de mi-mandat sont prévues en novembre. Les républicains surveillent de très près la cote de popularité du président Trump. Les derniers sondages lui donnent en moyenne un taux d'approbation de 42%. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il est arrivé à M. Trump d'enregistrer moins de 40%. Un reflet des remous au sein de son administration sur plusieurs fronts, Ressa Giranda.
Après une journée de prière à la Maison-Blanche, le président Trump a récemment dirigé une réunion de son cabinet centré sur l'économie.
Our economy is doing better than it ever has before.
Notre économie se porte mieux que jamais auparavant. Elle allait dans la mauvaise direction lorsque nous sommes arrivés et maintenant, ça va mieux que jamais auparavant.
Les électeurs lui accordent du crédit pour l'économie, selon Frank Newport de l'Institut de sondage Gallup.
Nous savons que son taux d'approbation le plus élevé porte sur la manière dont il gère l'économie. Selon notre dernier sondage, 50% approuvent sa gestion de l'économie, ce qui est très bon relativement parlant.
Mais dans cette dernière période, il y a eu beaucoup de revers, notamment après sa décision d'enlever à l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, son accès à des documents classés top secret et ses insultes à Omar Osa Manigo Newman, ancien employé de la Maison Blanche. La décision contre Brennan a fait des vagues jusque dans le camp démocrate. Mike Warner, sénateur démocrate de Virginie.
Pour moi, c'est une gifle qui rappelle les pratiques de l'époque Nixon, essayant de mettre sous silence quiconque ose critiquer le président, ce qui nous ramène sur un terrain inconnu.
Sa politique d'immigration controversée et les critiques de sa récente rencontre avec le président russe Vladimir Poutine n'ont pas aidé non plus dans les sondages. Larry Sabato, professeur à l'Université de Virginie.
Il n'est pas un président qui fait 50%. Dans tous les sondages, il n'est jamais allé un seul jour au-dessus de 50% durant toute la présidence.
Sa très basse cote de popularité pourrait avoir un impact sur les républicains qui veulent conserver la majorité au Congrès en novembre prochain. John Udeck du Brookings Institute.
Généralement, le parti du président perd des sièges aux élections de mi-mandat. C'est souvent aggravé par une présidence impopulaire. Et le président Trump est resté peu populaire. Il continue de l'être.
Cependant, les partisans de Trump croient dur comme fer que les électeurs vont donner du crédit au président pour l'économie américaine revigorée. Corey Lewandowski, ancien directeur de campagne du candidat Trump.
Le chômage dans notre pays est au plus bas depuis 1973, pas seulement pour les Américains blancs comme moi, mais aussi pour les Hispaniques et les Africains américains. Ce président devrait être acclamé pour ça.
Donald Trump est encore populaire dans sa base, mais est-ce que ce serait assez pour empêcher une déferlante démocrate ? Il suffira simplement d'attendre les résultats au soir du 1er mardi, en novembre prochain.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook, avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ennison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.